Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouge, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour. Je ne sais pas s'il est éminent, mais il est bien là. Voilà.
Bon, et merci d'être fidèle à notre rendez-vous, même si quelques contretemps nous ont obligés à retarder le début de cette nouvelle saison. Variation en noir est toujours et bien là. Alors, au sommaire, ce mois-ci, parmi les nombreux livres sortis l'an dernier dont nous avions envisagé, Hervé, de vous parler, nous en avons gardé un. C'est une nouvelle traduction d'un roman de Ed Lassie, paru en 1957 aux États-Unis. Une nouvelle traduction que nous proposent les éditions du Canoë, et ça s'appelle Traque Noire. Nous évoquerons aussi le dernier numéro de la revue 813, ainsi que les trophées 813 2022. Alors, Hervé, encore une fois, merci de m'avoir mis un livre dans les mains. C'est fréquent. Je te remercierai jamais assez.
Et réciproquement.
Voilà. Ouais. Bon, je pense que la balance n'est pas très équilibrée quand même. En tout cas, quelle découverte, ce Traque Noir. Donc, nouvelle traduction et nouveau titre aussi de Ed Lassie. Je pense qu'on prononce comme ça, Hervé Ed Lassie.
Ouais. On va faire comme ça. De toute façon, c'était pas son vrai nom quand même.
Voilà. Mais... donc, qui est un auteur américain. Et donc, c'est un livre qui a été édité aux États-Unis le 21 août 1957. C'est un livre qui a obtenu du succès et aussi un prix important aux États-Unis.
L'Edgar l'association des Mystery Writers of America, c'était le très grand prix du roman policier aux États-Unis. Oui.
Voilà,
oui.
Hein, donc le meilleur roman policier de l'année 1957. Le titre initial, enfin, il était sorti sous le titre Room to Swing, quelque part, en traduction, ça pourrait donner de la place pour bouger, mais avant cela, et bien ça nous permettra de faire connaissance avec cet auteur. Lassie avait choisi lui un titre. Alors je vais donner tout de suite la traduction française, botte avec botte et éperon, qui a été changé par l'éditeur parce que il affichait d'emblée les opinions progressistes de l'auteur, et ce titre était en effet tiré d'une citation de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, considéré comme un esprit éclairé et progressiste. Je cite donc: « La masse du genre humain n'est pas née avec une selle sur le dos, pas plus que quelques privilégiés avec bottes et éperons. » Voilà, hein, donc ça situe tout de suite cet auteur.
Oui, ça fait bien écho au parcours de celui qui, de son vrai nom, s'appelait Len Zinberg. On peut peut-être dire quelques mots de son parcours, parce que c'est un auteur qui est un petit peu... et donc, tant mieux qu'il y ait cette retraduction, ainsi que d'ailleurs Roger Martin, qui a traduit, il a également publié aux éditions à plus d'un titre, une biographie, une grosse biographie de Ed Lacey.
Un inconnu nommé Len Zinberg, voilà.
Le titre. Voilà, ouais. C'est ça.
C'est et j'en profite puisque tu cites Roger Martin qui traduit, hein, mais qui nous donne aussi une préface. Hein, et donc c'est de cette préface que j'ai tiré la citation. Elle est vraiment très éclairante, hein, à la fois sur l'auteur et le livre.
Il nous renseigne beaucoup sur cet auteur très intéressant et pionnier, un peu comme on va le voir. Parce que Jan Zinberg, c'était un écrivain blanc, juif, non-juif, comme il se définissait lui-même, c'est-à-dire issu d'un milieu new-yorkais très peu religieux, mais par contre imprégné d'idées progressistes, voire révolutionnaires. Et c'est un passionné de littérature. Il va écrire dès les années 30, il écrit dans des journaux très marqués à gauche, dans aussi un journal également très progressiste s'appelle New Mises, où les Nouvelles Masses, où il y avait où écrivait aussi Dos Passos, Hemingway, Erskine Caldwell, etc. Et dans ses nouvelles, dans tous ses textes, il met en scène des laissés pour compte du rêve américain, des victimes du racisme, qu'elles soient noires ou qu'elles soient hispaniques. C'est souvent des récits policiers, des récits d'action, mais avec toujours la question sociale présente. Et puis il n'arrive pas à en vivre, il va être obligé d'accepter un boulot de facteur qui l'épuise un peu. Il va devenir correspondant il est mobilisé quand les États-Unis entrent en guerre dans la Seconde Guerre mondiale. Il va devenir le correspondant du Yonk. C'est un journal qui quand même tire à 2 700 000 exemplaires, écrit par des soldats pour les soldats. Et donc là, ça lui donne un gros, gros lectorat. Et surtout, à partir de 1947, c'est là que va apparaître Ed Lassie, c'est-à-dire qu'il est comme Howard Fast, comme Norman Mailer, comme Dashiell Hammett, il va être William Hellman, il va être dans le collimateur de la chasse aux sorcières, de ce qui va devenir le McCarthyisme. Len Zinberg disparaît un peu de la circulation et Ed Lassie va réapparaître dès 52. Il y a un roman, le titre français c'est Chasse aux sorcières, et c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un privé pas forcément très sympathique dont les affaires sont devenues florissantes depuis qu'il s'est spécialisé dans des enquêtes sur les guillemets indésirables. Ouais. On voit à peu près la critique sous-jacente du régime. Mmh. Et puis en 57 il y a Room to Swing, donc Trac Noir, là, qui est traduit aujourd'hui et c'est super, et qui a une grande originalité, qui est son héros.
Oui. Mmh. Oui, un détective. Un détective, Toussaint Marcus Moore, qui est un détective noir.
Ça n'avait jamais existé. C'est-à-dire au mieux, les noirs étaient évidemment des seconds, si ce n'est des troisièmes rôles, ils étaient des victimes, comme dans un très très bon polar de Don Tracy qui s'appelle La Bête qui sommeille, où il y a un crime et évidemment le pauvre noir de ce port de pêche va devenir le bouc émissaire idéal, jusqu'à un lynchage absolument terrifiant. Mais là par contre, avant l'arrivée de Fossoyeur et Cercueil, les héros de Chester Hyde, c'est Ed Lassie met en scène le premier détective. Ce qui est quand même ça paraît banal aujourd'hui, mais à la fin des années 50 ça ne l'est pas aux États-Unis, hein.
Et d'ailleurs c'était tellement surprenant en plus qu'il soit blanc, hein, si j'ai bien lu dans la préface il y a des textes de lui qui ont été publiés dans des revues réservées aux auteurs noirs, s'il me semble Hervé.
Tu as complètement raison, je crois qu'il y a des gens qui croyaient qu'il était noir, d'ailleurs. d'ailleurs. Oui, mais effectivement.
Alors, tu l'as dit, pour dire encore un mot de ce Leonard Zinberg, qui est né en 1911 et qui est mort assez jeune, il avait des problèmes cardiaques, qui est mort en 1968, donc juif, non-croyant, communiste, et était marié à une femme noire, et il était père adoptif d'une petite fille noire, elle aussi, et donc...
Et
Harlem, donc voilà, il connaissait aussi, hein, de ce point de vue-là.
Ah oui, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu en complètement en accord avec ses opinions. Et par ailleurs, Traque Noire, c'est vraiment un bon roman. C'est marrant parce que bien qu'il soit pas très connu, à son époque, il a été encensé par différents auteurs, mais notamment Ross Macdonald, qui aussi faisait partie de ces auteurs américains de polar. C'est le créateur de Lee Archer, enfin les aventures qui sont retraduites chez Gelmeister. Et Ross Macdonald, c'était un peu à l'époque les anti-Mickey Spillane, voilà. C'est-à-dire ce polar machiste, légèrement facho, qui faisait quand même florès aux États-Unis. Et Ross Macdonald a dit le plus grand bien de d'Ed Lassie. Des années après, Manchin disait que tous les polars de Ed Lassie, en tout cas ceux qui étaient traduits, étaient excellents.
Oui, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un des auteurs américains du noir auquel on pense quand on regarde un petit peu derrière. Alors bon, bien sûr, il fait partie de la deuxième génération après Ahmed, Chandler, etc. Mais même dans cette génération, on ne pense pas forcément à lui, alors qu'il a quand même sorti entre 51 et 68 une quarantaine de romans. Et d'ailleurs, tous n'ont pas été traduits à la série noire. Il y en a quelques-uns qui ont été traduits à la série noire, et notamment celui-là, celui dont nous parlons, Traque Noire.
Crois que Roger Martin termine son article, il a fait aussi un article pour la revue 813, et de l'article En noir était rouge, il y a deux numéros de ça, et il terminait en disant que la série noire s'est bien inspirée de continuer à traduire qu'il ne l'a pas été.
Et donc c'était paru aux presses de la Cité, il me semble, ce roman, quand il a été traduit.
Tout à fait, avec un retournement intéressant, puisque, comme tu le disais, le héros, Toussaint Marcus Moore, il est engagé pour retrouver l'auteur d'un crime oublié dont l'arrestation constitue le clou d'une émission de télé-réalité. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez moderne comme idée.
On pense que ce roman a été écrit en 1957, et c'est vrai que c'est un regard sur la télé-réalité. C'est terrible.
Mais le blanc qu'il file se fait assassiner, et retournement de situation, c'est lui qui risque de devenir qui va devenir le suspect numéro un, et qui ferait un coupable idéal puisqu'il est noir, qu'on est dans ces années-là, et que si on l'arrête, c'est la chaise électrique garantie. Donc il y a une grande modernité et un vrai suspense, et un sens de l'économie du récit, c'est vraiment bien.
Et puis il y a une part aussi de personnel, puisque tu dis qu'effectivement il a dû reprendre un boulot de la poste, de facteur, et la question que se pose un peu tout au long de ce roman là, que se pose tout ça à Marcus Moore, et celle-là. Hein. Et il y a aussi beaucoup, il y a de l'humour. Moi, j'ai été surpris. Je cite un extrait de dialogue. À la façon dont je vous ai entendu parler tout à l'heure, je croyais que vous évitiez les blanchots comme la peste. C'est stupide. Il y a de bons blancs. L'ennui, c'est que les mauvais ne le sont pas à moitié. Voilà. d'humour. Aussi chez Ed Lassie.
Absolument. Roger Martin a fait un très beau, qui connaît bien la littérature américaine, a fait un très beau travail en retraduisant et en présentant ce roman. Oui, absolument.
Et puis,
il y aura une suite à tout ça.
Il y a aussi une dimension, alors on l'a dit, hein, dénonciation voilà, du racisme. Je pense qu'il a écrit aussi un roman autour des Indiens, des Amérindiens, hein, des Indiens
oui.
Des États-Unis, d'Amérique, enfin, vivant aux États-Unis. Et, mais il y a aussi un côté très. Un engagement féministe, je trouve. Moi, j'ai été surpris. Les personnages de femmes sont très forts, aspirent à une indépendance, la liberté. Et vraiment, j'ai trouvé ça. Encore une fois, complètement d'actualité.
Complètement, complètement, et je redis ça justement à un moment où Mike Hammer, le privé, quand même avec des ventes énormes de Mickey Spillane aux États-Unis, est vraiment à l'honneur. C'est bien de voir qu'à l'époque il y a aussi comment dire, il y a des choses qui contrecarrent ce côté mainstream, très phallocrate, très d'une violence voilà, extrêmement machiste et tout, et c'est, comme tu dis, là aussi c'est aussi un des aspects de la richesse de Traque Noire et des romans d'Ed Lacy. Oui,
donc quelqu'un qui cache bien son jeu. Alors bon, c'est rigolo parce que bon, quand on reçoit le livre, on reçoit une petite note de présentation, hein.
Ouais.
Voilà, et il y a une photo d'Ed Lacy, et donc on pense à tout, hein, sauf à cet auteur. Et d'ailleurs, on a plus l'impression d'avoir affaire à des Dupont de Hergé, hein, plutôt qu'à un Sam Spade de Hamet.
Grosse moustache. J'ai eu la même sensation. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'avais pas vu de photo, donc
Donc voilà. Hervé, un mot peut-être sur les éditions du Canoë, que je ne connaissais pas, j'ai découvert aussi avec ce livre.
Écoute, je ne les connais pas tellement plus que toi, hein, donc, ou pas plus du tout d'ailleurs. Je crois qu'ils tiennent à faire redécouvrir. Par exemple, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vu qu'ils en avaient publié plusieurs, un roman de Julian Semenov, qui était un écrivain de polar et d'espionnage de l'époque soviétique, si je ne m'abuse. Mais voilà, après il y a une série de romans, mais je ne sais pas, tu en sais peut-être plus que moi.
Pas du tout, Hervé, bon. C'est toi qui m'as complètement fait découvrir. En tout cas, bon, quoi qu'il en soit, c'est un super bouquin, un super roman, c'est une découverte pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur. Ça donne envie d'aller retrouver effectivement d'autres de ses romans. Donc, Traque Noire de Ed Lacy, avec une traduction et une préface de Roger Martin aux éditions du Canoë. vous écoutez Radio PFM, Variation en noir. Hervé, j'ai voulu nous mettre dans l'ambiance de.
Eh bien, écoute, rien, ça ne pouvait pas être mieux choisi que ça, parce que, effectivement, voilà, on est très raccord avec le dernier numéro de 813.
Voilà, dont le dossier est intitulé.
Vive le Québec noir.
Voilà. Québec noir. Donc, voilà, c'est René Lucier, un musicien, un poète canadien, donc québécois, je pense. Et c'est un disque qui a déjà quelques années, le trésor de la langue, où il revisite comme cela des discours et d'autres choses. Et donc là, on a eu ce fameux discours de Charles de Gaulle mis en musique. Et je trouve que voilà, ça résonne bien de ce Québec noir que nous présente la revue 813. Alors Hervé, ce dernier numéro, qui est le numéro 143, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que pour une fois, je ne vois pas ton nom dans les collaborations à ce numéro. Tu as séché ce numéro, le Québec ne t'inspire.
Donc, tu scrutes vraiment la moindre chose. Je suis toujours au comité de rédaction de cette revue.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Par contre, je me suis occupé de préparer certains textes, mais ça veut simplement dire quand le nom n'apparaît pas dans l'ours, c'est que je n'ai pas écrit dans ce numéro-là de la revue. Mais à part ça, je l'ai tout de même suivi de près. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'autant plus que le Québec, je suis moi-même allé passer un mois au Québec il y a quelques années de ça. Le Québec m'intéresse beaucoup. Nous avons des amis québécois. Et moi, j'étais ravi qu'il y ait ce numéro consacré à une littérature policière dont est noire, dont on commence à parler maintenant un peu, mais dont il y a encore 20 ans, on ne parlait pas du tout. Parce que le polar, les Québécois ont toujours été des très très grands amateurs de littérature policière. Je crois que c'est la littérature qui venait en tête de leur lecture, bien avant la fantasy, la SF, enfin des choses comme ça. Mais il a fallu attendre pour qu'émergent vraiment des auteurs québécois de talent, il a quand même fallu attendre, je crois qu'un des premiers à avoir été publié ici, c'était François Barcelot, Cadavre, à la série noire, fin des années 90.
C'est un Québécois, d'accord.
Oui, absolument. Et après, ça a été, à partir des années de 2001, je crois, il y a eu la revue Alibi, avec un S, qui a duré 20 ans, qui est en ligne maintenant, mais qui était une revue papier un peu comme la revue Polar à une époque ici. Et il y a eu des festivals, des prix qui ont commencé à surgir, et puis cette littérature a commencé à éclore, et il y a eu la volonté de mettre en avant certains de ces acteurs ou actrices, comme André Michaud, qui a publié plusieurs romans chez Rivage, dont Bondré, et puis Éric Plamondon, qui a fait Takawan, dont je crois que nous avions parlé ici.
Il vit en France.
Il vit en France. Voilà. Il est québécois, mais il vit en France.
Tout à fait.
À l'inverse, il y a une interview croisée des deux. À l'inverse d'une révélation de Cadre Noir au Seuil, c'est Julien Gravel.
Voilà, c'est ça.
Qui a publié Les Cowboys sont fatigués, que je recommande vivement, et qui est allé vivre, lui, au Québec, dans des endroits très, très reculés.
La lisière de la forêt boréale, près du lac David.
Sur la carte en cherchant bien le coin où il était.
Tu l'as lu, Hervé, toi? Tu l'as lu, Les Cowboys sont fatigués, tu l'as lu?
Oui, je l'ai
vu. Ah oui, monsieur, ça me donnait vraiment envie, là, quand on lit la revue 813, on a toujours plein d'envie de lecture, mais là, celui-là, je l'avais noté, donc,
confirmes. C'est vraiment remarquable, ça se passe dans un tout petit village perdu, dans une étendue froide, sauvage et tout, et où y a un personnage qui vit du commerce des méthamphétamines, parce que ça n'est pas parce qu'on est dans des territoires qui ont évidemment une grande beauté sauvage que la noirceur du monde et son revers en sont absents. Et voilà, c'est aussi ça qui est très fort dans le il y a un côté, le titre du roman de Gravel il fait écho évidemment, mais les cow-boys sont fatigués, il y a évidemment un écho au western que permet un territoire comme le Québec, où il y a à la fois la très grande ville à l'américaine que peut être Montréal, et puis où il y a à la fois des territoires encore des contrées complètement sauvages et où il y a très très peu d'habitants, et il y a ce contraste là, et c'est quand même très fort, et c'est bien d'ailleurs, parce que Julien Gravel, l'auteur des Cowboys sont fatigués, il est interviewé et il parle de manière très intelligente de son clin d'œil au western, et il termine en disant: le western est un genre fascinant, mais il mérite aussi qu'on lui torde un bras et qu'on le réenchasse dans une réalité nord-américaine dont il est né et qui est finalement peu glorieuse.
Voilà.
Et évidemment, dans cette littérature, on l'avait vu aussi beaucoup avec Plamondon et la pêche au saumon, les Micmacs, les Indiens Micmacs. Il y a aussi une très grande attention aux peuples autochtones.
Tout à fait. Donc un dossier vraiment, encore une fois, un bon dossier coordonné par Gwenaëlle Denoyer et Jeanne Guyon, que nous saluons, bien sûr.
Absolument, par ailleurs, un très très intéressant également entretien d'André Michaud, l'autrice de Bondré, où elle parle notamment de la langue, cette langue qu'elle utilise. Le texte s'appelle « Traduire l'Amérique en langue québécoise » et c'est remarquable.
Voilà, et plein d'autres choses encore. Aussi quelques pages sur le rural noir américain, trois auteurs vous parlent vraiment, vraiment intéressant.
Et signalons aussi, je peux ajouter là on est loin du Québec, une interview de Robert Little, le grand auteur qu'on a qualifié un des maîtres de l'espionnage après John le Carré, par Alexandra Schwarzbrod, qui elle-même est autrice et qui est rédactrice en chef Libération, et c'est vraiment Little, ça a été l'auteur notamment de La Compagnie, et là Alexandra Schwarzbrod présente son dernier roman à Little, La peste sur vos deux familles, paru cette année aux éditions Flammarion. C'est Shakespeare au pays des truands, Roméo et Juliette dans le monde du crime organisé. Très très intéressant moment aussi, ainsi que la rubrique BD qui est consacrée sur plusieurs pages à l'histoire de Futuropolis.
Là aussi, faut pas trop s'y attarder, parce qu'on prend plein de notes en se disant bon, ça faut que j'aille voir, ça faut que j'aille voir. Et donc c'est terrible, c'est terrible.
Oui, après on n'a pas le temps, on se ruine, enfin c'est pas possible.
Exactement. Il faudra signaler ça à Frédéric Prieux, qui en charge cette rubrique, toujours vraiment bien intéressante. Alors Hervé, il nous reste 5 minutes, Hervé. Donc ça tombe bien, il y a 5 trophées 813. Donc nous allons, encore des pistes de lecture, bien évidemment. Les trophées ont été remis il y a peu de temps, il y a quoi, un mois, un ou deux mois peut-être.
Ça devait être au mois de septembre.
Fin septembre. Oui. Donc trophée 813, donc des romans qui sont sortis, des romans ou des livres en 2021, puisque.
Complètement, la règle, il faut qu'ils soient sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre, et après, ce sont les années adhérents qui votent.
Voilà, c'est ça. Hein, et deux tours, hein, on peut donner...
Deux tours, oui, deux oui. Tours. Un premier où chacun vote pour ce qu'il a lu, ce qu'il veut, et un deuxième où il y a cinq... Il y en a cinq par catégorie, et voilà, il faut choisir le préféré.
Voilà, alors, pour le trophée du roman francophone, ben, on va simplement citer le titre, on va inviter nos auditrices, nos auditeurs à aller sur le site et retrouver notre émission qui lui était consacrée en partie, puisqu'il s'agit de...
Absolument, ouais. Voilà, tu as là une excellente idée, non pas que nous soyons paresseux, mais je crois qu'on avait dit beaucoup de bonnes choses de Caroline Hineau et de son Folac, voilà. Aux éditions du Rouergue, des mois après, on retranchera pas un mot, je crois que ce roman était absolument excellent. Et
on parlait du Québec, voilà. Hein, des Grands Nord, c'est pas le Québec, hein, on sait pas trop où on est, mais en tout cas, il fait froid.
Une extrémité, mais...
Ouais, voilà. il fait froid, il y a de la neige, il y a des ours blancs, et c'est... Non, c'est vraiment, il faut...
Il y avait cette merveille d'avoir un huis clos à l'intérieur d'une étendue immense. et avec une langue, enfin un style absolument
une sacrée découverte, parce qu'il me semble que c'est son premier roman.
Absolument.
Donc vraiment une sacrée découverte. Alors, le trophée Michel Vital, roman étranger, Jurica Pavicic, Le Rouge, aux éditions un Gulot, et donc là c'est aussi moi je l'ai découvert suite à l'obtention du prix, une ouverture vers les pays un peu plus de l'Europe de l'Est et la Croatie, hein. Je pense que c'est une première, non, pour un...
Oui, c'était la première fois qu'un polar, un roman noir croate était traduit. Les éditions Agulot se veillent au grain sur cette partie du monde notamment, et ce roman, ça a été une vraie réussite, puisqu'il a eu avant d'avoir le trophée 813, il a eu le grand prix de littérature policière, le prix du polar européen,
mystère de la critique, donc prix Transfuge du meilleur polar étranger,
absolument.
Bon. Et c'est vrai que c'est bon, il y a ce côté-là déjà qui est intéressant. En plus, on replonge un peu dans la guerre, en ex-Yougoslavie, et donc c'est vraiment c'est subtil, quoi, ces références à l'histoire, et tout en étant dans une intrigue policière assez classique, quoi, hein, la disparition d'une jeune femme.
Je crois que, si je me souviens bien, on a une trentaine le livre se passe sur une trentaine d'années. Ça commence avec la disparition d'une jeune fille dans une petite ville, un petit port, il va y avoir, à travers cette enquête sur qu'est-elle devenue, qu'est-ce qu'il s'est passé, etc., il va y avoir, au-delà de ce drame familial, de l'enquête policière, il va y avoir toutes les métamorphoses de ce qui était l'ex-Yougoslavie à ce moment-là, de la Croatie, qui vont être répercutées par le roman. On va voir l'évolution de cet endroit, qui, après avoir été une espèce d'endroit un peu industriel, un peu va devenir un peu à l'abandon, et puis va après devenir, va être repris par les promoteurs pour en faire un endroit touristique,
un grand centre touristique.
Et des personnages dont on voit eux-mêmes l'évolution, le policier Gorky par exemple, c'est vraiment remarquable quand même. Hein.
Alors signalons, puisque initialement il est en grand format publié chez Agulot, mais qu'on peut le trouver sur maintenant en point seuil, en collection de...
Absolument, et chez Agulot, du même auteur, est sorti il y a très peu de temps un deuxième roman, La femme du deuxième étage. Je ne m'étendrai pas dessus, mais c'est également remarquable. L'auteur se renouvelle, les lieux y ont toujours beaucoup d'importance, mais là, on a une ambiance plus resserrée à la Patricia X. Smith, c'est très bien.
Voilà. Alors, il y a un trophée nouvelles. Celui-là, ça va être aussi rapide, hein, puisque c'est Marc Villard avec L'Homme aux Doigts d'Or aux éditions Cohen et Cohen, hein, qui a obtenu le trophée. Et nous en avons parlé dans une de
nos dernières. Je crois que nous en avons parlé également
dans une de nos dernières émissions avant l'été.
Et c'est évidemment une excellente chose que Marc Villard, qui est quand même le maître de la nouvelle noire, de la du cours et un grand défenseur de ce genre-là, et qui dirige la collection Polaroid aux éditions Inuit, ça n'était que justifier totalement légitime. Voilà.
Bon, il y avait un autre, moi j'avais dans les cinq, il y a un livre qui m'avait beaucoup plu, c'est Presqu'île de Yann Lespou, hein, aussi aux éditions.
Hein, oui.
Bon, d'ailleurs, c'était assez, assez serré. Et donc,
Très compliqué de choisir, alors là, on avait quelqu'un qui était justement sur les traces du premier, mais qui, dont c'était le premier, c'est un chroniqueur réputé. Yann Lespou, mais là c'était la première fois qu'il publiait en tant qu'auteur et on avait des nouvelles du Médoc particulièrement humoristiques ou extrêmement noires, les deux à la fois.
Donc Marc Villard, trophée nouvelle pour L'Homme aux Doigts d'Or, avec un super bouquin avec une super couverture, trophée bande dessinée.
Très belle, Edouard Hopper et la station service.
Oui. Voilà. Trophée bande dessinée. Alors, quelqu'un qu'on connaît bien, hein, sur Arras, ici, qui est venu régulièrement au Salon du Livre, c'est Caril Ferré, donc au scénario. Et Rouge, hein, donc le dessinateur, et ça s'appelle Sangoma, les damnés de Capton aux éditions Glénat. Un mot rapide, Hervé, sur.
Bon, écoute, je suis pas du tout spécialiste de bande dessinée, mais cette BD-là était une bonne réussite. Donc, en général, on peut se réjouir du fait que le trophée BD, comme le trophée nouvelle, beaucoup plus récemment, ait été maintenu, rétabli et tout ça, parce qu'en fait, il remporte beaucoup de votes, ce qui veut dire que.
Oui, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas du tout photo pour ce trophée. Et puis, dernier, on conclura là-dessus, Hervé, le trophée Maurice Renaud, essais, études, articles de presse, magazines, sites internet. Et donc,
oui, c'est un trophée auquel on tient, parce que malgré tout, il n'y a pas tant d'études et de choses que ça qui sont, non pas publiées, il y en a, mais mises en avant. C'était peut-être plus le cas dans les années, je ne sais pas, 80, 90 et tout ça. Et donc, c'est bien parce que le premier tour permet de repérer des choses. Il y a toujours des adhérents de 813 qui ont l'œil pour ça. Et après, de faire des choix. Et là, c'est un travail qui est paru aux presses universitaires de Rennes qui s'appelle Le goût du noir, qui est dirigé par Gilles Ménégaldo et Marise Petit. Et c'est un livre absolument passionnant de contributions.
Le goût du noir dans la fiction policière contemporaine.
Voilà, c'est ça. Et donc ça parle de littérature, bien évidemment, mais aussi de cinéma, David Simon, Jacques Frey, ou alors de ou Scorsese, et ça parle de la série Sur Écoute. Enfin bon, et puis d'écrivains, du roman noir et du fantastique, de la BD avec Tardy adaptant Manchette. Enfin bon, c'est une belle somme, oui.
Voilà. Et puis encore une fois, là, quand on y met le nez. Ça donne trop d'idées et d'envie de lecture. C'était Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh ben, au revoir Guy, au revoir Bernard, au revoir à toutes et tous.
Voilà. Bonne lecture. Et ouais, de très bonnes lectures, en noir ou pas, hein, d'ailleurs, à toutes et à tous, et rendez-vous dans un mois.